Je vous remercie d'abord de m'avoir invité, ce qui me fait extrêmement plaisir. Le temps à Bordeaux est une merveille par rapport au temps à Paris. On part sous le ciel gris, on arrive sous une lumière dorée dont vous n'imaginez pas le caractère précieux. Et je trouve cette ville toujours très belle, si magnifiquement située sur la Garonne, avec cette belle architecture et cette pierre blonde dont on n'oublie pas la couleur quand on y a habité un petit peu, ce qui est mon cas. Je voudrais donc remercier le professeur Caillé ainsi que Capucine Larosa, qui a été particulièrement charmante dans toute l'organisation de ces choses, et Hans Lung, qui a été à l'origine de ma venue aujourd'hui, et puis pour remercier tous d'être si nombreux, vous savez, c'est pas si fréquent. Et m'excuser d'avance du fait que je vais relativement peu parler de demain. Parce que la difficulté, si on pose le problème de l'écriture, c'est plutôt de définir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Étant donné que je vais essayer de vous convaincre que nous vivons une révolution graphique. Avec graphique, ça veut dire une révolution dans les modes d'écrire, avec l'informatique d'une part et la téléinformatique de l'autre. Je vais essayer de vous en convaincre en commençant par parler du présent, ensuite en faisant un crochet par le passé assez ancien, l'invention de l'écriture des langues et l'invention de l'écriture que j'appelle monétaire arithmétique, c'est-à-dire la matérialisation de nombres sur les monnaies frappées. Et si on a le temps, on verra le futur, mais vous savez, je ne suis pas prospectiviste, il paraît que c'est un métier. J'ai découvert ça en écoutant France Culture il y a quelques jours. C'est un métier d'être prospectiviste. Ça n'est pas du tout mon cas. Je considère que l'avenir est quelque chose comme l'invisible par essence, d'une certaine façon. Et mes compétences pour lire dans une boule de cristal sont extrêmement limitées. D'autant que mon tropisme me tire vers une visite du présent vue dans la grande boucle que permet le fait d'être antiquiste. Je suis antiquiste, j'aime l'antiquité. Et l'accès que me donne le savoir sur l'Antiquité, cette une relative aisance qui est toujours limitée, bien sûr, avec les sociétés antiques et les cultures antiques, fait qu'on redécouvre le présent avec comme un œil neuf, comme c'est une visite soudaine de notre temporalité actuelle. Que sommes-nous dans la grande histoire des signes? C'est au fond cela ma question. Alors, nous avons donc, depuis les années 70, découvert, dans la vie privée comme dans la vie publique, une écriture à peu près totale, qui est celle de l'ordinateur. Dans les années 70, nous avons surtout utilisé les ordinateurs dans les laboratoires, dans l'industrie, puis enfin dans les années 80 en France, avec les traitements de texte dans la vie de travail et même la vie personnelle. Or, de nos jours, les choses ont pris une proportion immense puisque les ordinateurs écrivent quasiment tout. Tout, c'est-à-dire les signes pour les langues, les caractères et les signes pour l'écriture des langues, et toutes les graphies des langues, que ce soit la graphie alphabétique, les graphies syllabiques du japonais, les graphies idéographiques ou bien logographiques du chinois, etc. C'est-à-dire que toutes les écritures, si vous avez le bon logiciel, toutes les écritures des langues peuvent être manipulées par un ordinateur. À la condition, bien sûr, d'avoir le clavier adéquat. Donc, non seulement l'ordinateur écrit les écritures des langues, écrit les langues, mais écrit les nombres et les calculs, écrit les images fixes et mobiles, écrit la musique, le son de la voix, et enfin, la monnaie. Je ne sais pas si vous vous servez d'une carte bancaire, mais il y a une puce dans une carte bancaire. Et cette puce, c'est un micro, tout petit ordinateur. Alors donc, tout en fait, ce qui pouvait s'écrire, ou se matérialiser visuellement, disons, ou se matérialiser phoniquement, est devenu de l'information. C'est-à-dire une suite de 0 et de 1, selon une expression binaire du nombre. Vous savez tous ce que c'est que l'expression binaire du nombre. C'est une expression où la base n'est pas décimale, mais la base est le nombre 2. Tout nombre est une expression dont la base est 2 et non pas 10. Alors, cette information est bien sûr obtenue par traduction de données extérieures qui rentrent dans la machine et qui sont traduites avec un code pour devenir des suites de nombres de 0 et de 1, c'est-à-dire des nombres binaires. Telle forme de police de caractère où vous, avec laquelle vous écrivez un A ou un B ou un 1 ou un X porte un nombre. Et c'est ce nombre qui est traité par la machine et qui passe, une fois que vous avez appuyé sur la touche du clavier, dans une épaisseur de logiciels et de programmes pour arriver jusqu'au cœur de la machine et qui est ensuite renvoyé du cœur de la machine vers un organe de sortie, que ce soit l'écran ou l'imprimante, par exemple. Donc, il y a, on ne va pas faire de l'informatique. Hein. De toute façon, je ne suis pas informaticienne, comme vous le savez. Donc, il y a toute une pile de logiciels et de programmes qui sont écrits et pensés dans des langages. Hein? Ce sont des langages informatiques. Ces langages ne sont pas des langues. D'accord ? Ne sont pas des langues humaines. Personne ne les parle. Hein? Pourquoi ? C'est parce que, quelle est la différence entre langue et langage ? C'est que les langues humaines sont par définition ambiguës. L'exemple célèbre que ne pouvait pas traiter Noam Chomsky dans ma jeunesse, quand on faisait de la linguistique, c'était en anglais « he kicked the bucket » ou en français « il a cassé sa pipe ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, au moins deux choses. Hein ? Vous le savez bien. Bon. Donc, toute langue naturelle, qu'on appelle naturelle maintenant sous l'influence de l'anglais, toute langue humaine pratique l'ambiguïté. En permanence, la polysémie, la répétition, elle n'est pas économique. Une langue n'est pas économique. Elle répète, nous allons. Il y a deux fois l'idée de première personne du pluriel, dans nous et dans on. D'accord ? C'est extrêmement peu économique. Hein ? Tandis que si vous écrivez ça avec des signes non d'une langue, d'un langage inventé, vous écrivez nous et allez, ça suffit. Il n'y a pas besoin de on en plus. D'accord ? Les langues naturelles, les langues humaines sont répétitives, sont non seulement ambiguës, mais répétitives. Tandis que les langages informatiques sont non ambiguës et économiques. Donc, ce sont des produits de la logique mathématisée, de l'art de la logique, avec un peu de linguistique aussi. Et donc, ce sont des ensembles écrits de signes, de caractères, de chiffres, de mots, de règles qui permettent de traiter et de donner des instructions à un ordinateur. Donc, retenons l'idée, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que le mot de langage en français, qui, dans la langue triviale, veut dire, quand vous dites « quel beau langage », ça veut dire « quelle belle langue ». D'accord ? Mais l'aspect conceptuel du mot « langage », c'est l'aptitude à apprendre, parler, transmettre une langue humaine. C'est l'aptitude à utiliser une langue. Eh bien, nous utilisons le mot « langage » pour une chose artificielle, un langage artificiel, un langage informatique. Et ce langage qui appartenait jusqu'au milieu du XXe siècle, à la théorie fondamentale de qu'est-ce qu'un être humain. Un être humain, c'est un animal parlant. Eh bien, d'une certaine façon, nous en avons délégué quelque chose aux machines. Ce qui n'est pas une mince aventure. Or, ces machines, nous en parlons tout le temps. Nous parlons tout le temps des objets technologiques. Qu'est-ce que ça veut dire, technologique ? Ça veut dire, d'une certaine façon, en tirant un peu le sens, ça veut dire qu'il y a du langage en lui. Ces objets, nous vivons tout le temps avec, nous ne saurions quasiment plus nous en passer. Les cartes bancaires, les téléphones portables, tous les appareils à programmer, les GPS, messieurs, vous en passeriez-vous ? Et tant d'autres choses avec lesquelles nous vivions, sans lesquelles nous vivions fort bien auparavant. Et qui maintenant ne nous quitte quasiment plus. Donc, nous sommes reliés les uns aux autres, reliés, y compris à nous-mêmes, par des objets qu'on appelle technologiques, qui ont du langage en eux. Ça change l'environnement, l'environnement sémiologique, c'est-à-dire l'environnement des signes visibles, des signes écrits, ou non écrits d'ailleurs, l'environnement et la constitution psychique des sujets. Pourquoi ? C'est parce que les signes des langues, les signes d'écriture, les signes du corps, sont des outils cognitifs majeurs avec lesquels les sujets se constituent à partir de la naissance. Dès lors que une des plaques tectoniques des systèmes de signes bouge, tout bouge. Ce sont des empilements solidaires, structurés, et nous sommes en train de vivre une période extrêmement troublante et d'une certaine façon passionnante, où tout l'empilement des signes, à partir des signes du corps, des symboles, des signes du corps, l'opposition masculin-féminin, jeune-vieux, malade, en bonne santé, des oppositions simples, qui font partie de la construction du psychisme humain, ces signes radicalement fondamentaux sont atteints, sont touchés, non pas abîmés, quand je dis atteints, mais sont transformés par le fait que dans la couche d'empilement de tous les systèmes de signes dont nous nous servons, il y en a une majeure qui subit une très grande transformation. Ce sont les signes d'écriture. L'ordinateur peut donc, avec des langages en lui et puis des circuits, etc., etc., on ne rentre pas dans les détails, peut donc pratiquement tout écrire. Y avez-vous pensé ? C'est stupéfiant, d'une certaine façon. C'est absolument stupéfiant. Quand vous utilisez un CD-ROM, il est écrit, il est lu par la machine. Après vous, vous avez un film, la Traviata, etc. Mais le son et la musique sont écrits avec deux signaux, le passage et le non-passage du courant électrique. Donc, j'aimerais vous dire avant de continuer que si apparemment je fais une critique de l'environnement sémiologique dans lequel nous sommes, ce n'est pas une critique négative. D'accord ? En effet, les choses bougent énormément. En effet, il y a du bon et du moins bon. Mais en même temps, ça a été une révélation dans ma vie. Pour quelqu'un qui essayait de déchiffrer des langues anciennes, tout d'un coup, de voir débarquer une machine à signer sur son bureau. J'avais une vieille Remington, une vieille Underwood sur laquelle je m'épuisais à taper, et tout soudain est apparu un Apple que j'ai honnêtement acheté en demeurant, hein, mais est apparu un Apple, et ça m'a été un choc. Donc tu essayes de déchiffrer les Lamites linéaires, qui est une écriture de la fin du troisième millénaire, et tout d'un coup, il t'arrive une machine à laquelle toi tu dois t'adapter. Donc il y a eu une espèce de, dans ma vie, un espèce de choc sémiologique qui m'a convoqué à réfléchir. Donc je ne voudrais pas que vous preniez les critiques que j'adresse au mouvement sémiologique que connaît la société moderne actuelle, contemporaine, comme une critique négative. Ça a été pour moi un appel d'air, un bol d'oxygène extraordinaire et une ouverture. Étant antiquiste, tout d'un coup, je me trouvais confrontée à l'extrême modernité et dans la compétence que j'avais difficilement acquise du savoir antique, soudain, avec moi, les anciens étaient là. Ils participaient tout d'un coup du réel et du vivant. Donc, il y a malgré tout beaucoup à dire sur ces transformations sémiologiques que nous vivons. Et une des premières choses qui me frappe, c'est à quel point l'écriture informatique, puis l'écriture téléinformatique, c'est-à-dire cybernétique, disons, mettent en œuvre un processus graphique, un procédé graphique désymbolisé. Vous savez tous que c'est un symbole, je pense. En grec, c'est symbolon. C'était, dans la Grèce archaïque, eh bien, un tesson, par exemple, cassé en deux. Un tesson, c'est-à-dire un tesson de poterie, un morceau de céramique, cassé en deux volontairement, par deux maîtres de famille qui instituaient comme ça un signe de reconnaissance. Chaque maître de famille gardait une des deux moitiés, transmettait cette moitié à ses descendants, et les descendants qui ne se connaissaient pas pouvaient se reconnaître grâce à l'objet lorsqu'il recollait les deux parties ou les mettait en contact. Et cet objet attestait d'un serment d'hospitalité ou d'une preuve d'alliance. Le symbole est donc quelque chose qui représente de façon analogique ou non analogique, tout à fait arbitraire, une chose, une opération, un fait, mais qui porte en elle l'idée d'une concordance, d'une correspondance, d'un accord. Donc, pourquoi est-ce que je m'autorise à dire que nous vivons dans une relative désymbolisation du fait de nos transformations graphiques? Eh bien, parce que, sans que nous nous en soyons aperçus, dans les dernières années du XXe siècle, et même dans les dernières décennies du XXe siècle, l'écriture et la lecture étaient devenues des métaphores constantes comme mode d'accès de la connaissance de la société. Nous disions sans arrêt, on l'entendait sans arrêt à la radio, que quelqu'un s'inscrit dans tel groupe, ou que telle idée s'inscrit dans telle théorie. On entend encore à la radio, je lis la société, nous lisons le livre de la nature, on peut lire dans l'esprit, on peut lire avec l'IRM, professeur Caillé, n'est-ce pas, hein? Et vous aviez dit tout à l'heure, l'IRM dit, l'IRM parle. Bien, c'est encore plus fort, ça. Donc, il y a... La métaphore de la lecture et de l'écriture est devenue extrêmement prégnante. Donc, quand la pratique graphique de l'écriture et de la lecture change, on peut supposer que ça atteint un mode de connaissance de nous-mêmes et du social. D'autre part, évidemment, les langues humaines... sont le domaine du symbolique, disons, du signe linguistique, et mettent en œuvre l'activité symbolique de l'homme. Elles sont écrites depuis longtemps, et donc le signe linguistique a été démultiplié par les signes graphiques, les caractères, les lettres, dont certains sont des symboles. Revenons sur cette idée. Si vous visualisez dans votre tête une chose que l'on peut lire un peu partout, « I love New York », hein, où l'homme est représenté par un petit cœur rouge. Ce cœur, vous avez déjà vu ça, je pense. Hein? C'est peut-être pas seulement New York. I love Paris, peut-être, ou bien Bordeaux. Bon. Eh bien, le cœur rouge est un logogramme, c'est-à-dire un signe pour un mot, et en même temps, il entretient une analogie graphique, une ressemblance avec l'idée que nous nous faisons vague de l'organe cardiaque du cœur. Et si vous comparez ce signe à la forme de nos lettres A, B, C, D, etc., X, Y, Z, vous voyez bien que ces lettres n'ont aucune valeur symbolique. Elles n'ont de valeur que leur traduction phonologique, leur valeur de phonème, c'est-à-dire de son théorique dans la langue. D'accord ?
Ok.
Or, dans l'alphabet complet dont nous nous servons, que vous apprenez à l'école, plus ou moins bien, il y avait quand même encore un symbole, qui est le O, le signe O. Bien, vous voyez bien, la majuscule O, ou le petit O, c'est un symbole. Pourquoi ? C'est parce que la lettre représente la forme que prend toute bouche humaine pour faire le son O. Bon, je peux rester comme ça, si vous voulez, mais... Bien. Donc, étrangement donc, ces signes qui sont désymbolisés, ou même le dernier signe symbolique de notre écriture alphabétique, d'une certaine façon, a cédé la place à quelque chose qui lui ressemble étrangement, qui est le zéro. Il n'y a pas tout à fait la même forme, hein, ni sur un clavier d'ordinateur, ni dans aucune police de caractère, le O n'est équivalent au zéro. Mais grosso modo, c'est assez proche. Et ce zéro, justement, il indique dans la pratique informatique L'absence du passage du courant. D'accord ? L'absence. Le O, d'une certaine façon, dans la graphie de la langue, exprime l'interlocution. Quand vous dites O, vous faites un O avec votre bouche, et je vois cette O, et je sais aussi que quand je fais un O, c'est également mon corps parlant qui fait un rond. Donc, étrangement, il s'est passé sans que personne n'en ait nullement eu l'idée ni la volonté que ce signe qui représente le corps humain parlant, tout d'un coup bascule vers la non, le non-passage du fluide sémiologique, le non-passage de ce qu'on écrit. C'est certainement un hasard, certainement. Au demeurant, c'est ça dont est faite l'histoire humaine, tout le temps. Personne n'a décidé que le même signe, grosso modo le même signe, tout d'un coup, basculerait dans un sens négatif, au lieu du sens positif de l'interlocution. Bien. Alors, ceci a en fait une certaine importance, car il entre dans la compétence et même dans la puissance de l'ordre graphique des écritures de faire passer l'invisible au visible, de rendre visible l'invisible. Quand vous me voyez parler, vous me voyez faire un certain nombre de grimaces, je sais bien, un certain nombre de mimiques, mais ce n'est pas le langage que vous voyez, ce n'est pas la langue française, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, ce que je prononce, reste invisible. Ma pensée reste invisible. Elle n'est pas de l'ordre du visible. Elle est de l'ordre de l'immatériel, de l'invisible, de l'incaptable. L'immatériel n'est pas tout à fait vrai puisqu'il s'agit d'ondes sonores. Mais, oh, si vous écrivez, tout d'un coup, le langage devient visible. Il y a une espèce de transformation. Le langage d'invisible qu'il est dans sa condition naturelle, si je puis dire, dans son usage quotidien, la parole réalisée devient visible quand vous écrivez. Ça paraît d'une platitude. Eh bien, ça ne l'est pas. Au fond, on passe de l'invisible au visible, et dans ce passage se glissent énormément de choses. Qu'est-ce qui est invisible? Ça dépend des sociétés, n'est-ce pas? Pour les sociétés anciennes ou pour les sociétés traditionnelles, ce sont plus ou moins les ancêtres, les dieux, les esprits, Dieu tout court, que l'on peut atteindre à certaines conditions, évidemment. L'avenir, le passé. Pour nous, les modernes, qu'est-ce que c'est que l'invisible? L'origine du monde? L'inconscient? Il se glisse dans l'acte d'écrire la capture de l'invisible, soudain rendu accessible aux yeux. C'est une expérience que vous avez faite quand vous étiez très jeune, qui fait que son caractère habituel et qui plus est scolaire, ce qui n'arrange rien, ne vous apparaît pas comme une opération quasiment magique. Eh bien, je vous conseille de faire un peu de cunéiforme pour soigner l'idée que c'est banal d'écrire, il faut faire un petit peu d'écriture embêtante. Et le cunéiforme là-dessus est formidable. Parce que on restitue tout d'un coup l'étrangeté. Et pour penser, il faut être étonné. Il faut trouver le monde étrange pour l'aborder. Ce qui est donné cesse d'être trivial. Donc, la transformation graphique touche à quelque chose de curieux, qui est la capture de l'invisible. C'est la même chose quand vous écrivez des nombres. Quand vous écrivez des nombres, qu'est-ce que vous écrivez? Quelque chose que, a priori, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas de nombres. Vous voyez des quantités, mais pas des nombres. Et vous voyez encore moins les rapports entre les grandeurs, les santé plus ou moins. Mais écrire des chiffres, écrire des nombres avec des chiffres, c'est donner à voir, souvent, pas toujours, mais dans certains cas, les rapports entre les nombres, les rapports entre les nombres qui constituent les nombres. Donc, il y a une question qui se pose quand on change d'outil graphique et qui concerne l'invisible. Et en effet, avec l'écriture informatique, l'invisible s'est déplacé, s'est transformé. Écrire avec une machine, écrire avec un ordinateur, fait passer le langage ou les nombres du visible du clavier au visible de l'écran ou de l'imprimé, d'un organe d'entrée à un organe de sortie. Et l'invisible, il est où ? Il est dans la machine. La machine elle-même traite du visible, le transforme. Elle contient une puissance invisible et elle règne sur un pouvoir qui est de l'ordre de l'invisible. On ne s'étonnera pas complètement des transformations majeures dans l'idée de l'homme, par exemple, que l'on voit fleurir depuis quelque temps quand même. Le transhumain, le transgénique, je veux dire quand même, croiser l'homme et l'ordinateur, c'est quand même pas rien. D'accord, ils sont un peu gelés, mais enfin bon, je veux dire, ils écrivent, on les croise partout. Comment est-on arrivé là ? Entre autres choses, on est arrivé là parce que c'est une vieille histoire dans la culture occidentale avec le golem et d'autres choses, mais il y a en même temps, une puissance propre de la machine qui est de contenir quelque chose qui apparemment n'est pas totalement contrôlé, qui est de l'ordre de l'invisible, même si la machine elle-même est un produit industriel de l'intelligence des hommes. Elle contient quelque chose que les hommes ne contrôlent pas complètement, qui est de l'ordre de l'invisible. Alors, retenons donc, à part les affaires de langage, retenons, et les affaires de désymbolisation, maintenant, une transformation de l'ordre de l'opposition visible-invisible et du point d'application. Qu'est-ce que l'invisible ? Il y a un invisible supplémentaire. Alors, une des transformations majeures encore, c'est que jusqu'à présent, nous avions l'habitude d'avoir des signes pour la langue, jusqu'à l'utilisation des ordinateurs dans la vie quotidienne, des signes pour les nombres, oh pardon. Et puis, des monnaies, n'est-ce pas ? Des pièces, des billets, des chèques, etc. Et tout d'un coup, avec les machines, eh bien, nous n'avons plus qu'un artefact pour traiter la langue, la musique, les images fixes et mobiles et la monnaie. C'est quand même pas du même ordre. N'est-ce pas ? Ça nous paraît tellement plat, hein, d'utiliser une carte bancaire, de payer Amazon.com ou Abebooks ou eBay en disant votre numéro de carte bancaire. C'est plus ou moins raisonnable de le faire d'ailleurs, hein. Mais ou la SNCF, ou bien votre billet d'avion. Ceci n'est possible que parce que vous le faites avec une machine. Vous traitez, la machine traite, et vous-même, la langue, les nombres, et la monnaie avec le même outil. Ça, vous ne faisiez pas du tout ça il y a 30 ans, ni il y a 20, hein, pas du tout. Du tout. Donc, vous avez pris l'habitude, comme moi, évidemment, de rassembler sous un petit nombre d'opérations des choses qui étaient extrêmement différentes et distinctes il y a encore 20 ans. Vos enfants, les miens, sont plutôt vos petits-enfants, je n'en ai pas, grandissent dans un univers de signes sémiologiques complètement différent du nôtre. Vous le savez bien, c'est une banalité, Mais en quoi est-il complètement différent du nôtre? Pour eux, le fait, ils auront l'habitude de manipuler un peu de pièces de monnaie pour acheter du pain, mais de payer avec une carte bancaire sur un ordinateur sera une chose absolument naturelle, alors que pour un certain nombre de personnes de ma génération, ça a été une pas évident, et il y a des gens qui ne s'y sont jamais fait. Rappelez-vous, quand il y a eu la tornade à Katrina, c'est Collins, je crois, qui disait, bon, tout le monde n'a pas de carte bancaire et ne sait pas la manipuler. C'est vrai. Ces outils informatiques et cette carte bancaire creusent une différenciation d'accès à l'information gigantesque dans le social. C'est pas seulement l'argent. C'est pas seulement avoir ou ne pas avoir d'argent. C'est aussi avoir ou ne pas avoir l'accès, l'aisance avec les machines. Or, tout le monde, pour des raisons psychiques ou économiques ou autres, n'a pas un accès aux machines. Un accès spontané qui marche, neutre, sans pour autant être malade. Ça n'est pas évident, n'est-ce pas? Or, si vous y réfléchissez un peu, l'affaire monétaire n'est pas neutre, puisque jusqu'en 17, par exemple, en Europe, y compris en France, régnait l'étalon or, grosso modo, et la convertibilité des billets. Jusqu'en 1917, vos grands-parents, ils payaient avec des pièces d'or. L'or a été retiré dès le début de la guerre. Je ne sais pas 17, c'est 1914. Puis les billets qui étaient convertibles en or, ont perdu la convertibilité. Quand vous aviez un billet de banque, vous pouviez avec votre billet de banque aller à la banque et demander de l'or. Allez essayer là. La Grande Guerre, c'est la fin de l'étalon. Or, d'une des formes de l'étalon or, c'est la fin de la convertibilité des billets. Mais toutes les monnaies européennes à ce moment-là cessent d'être convertibles en or et cessent d'être étalonnées par rapport à l'or, tandis que le dollar le reste. Ensuite, il y a la Grande Dépression de 29 et de 30, etc. Et bref, l'étalon or s'arrête en 34. Seul le dollar est rattaché à l'or. Alors, je ne sais pas par cœur, en 1934, un dollar vaut 888 mg d'or fin et une once de métal vaut 35 dollars US. Et cette parité, ce calcul du dollar va rester fixe jusqu'en 71 et après. Et c'est par rapport au dollar que sont calculées toutes les monnaies européennes et le yen japonais. Donc, les monnaies sont encore rattachées à l'or. Vous m'entendez bien? Les monnaies sont encore rattachées à l'or, les monnaies européennes, via le dollar, sont rattachées à l'or. Et le dollar l'est. Le 15 août 1971, Richard Nixon, en grand réformateur sémiologique, ce qu'on n'imagine pas a priori, coupe le cordon ombilical reliant le dollar américain à l'or. Dans la stupéfaction générale, car personne ne s'y attendait. À partir de ce moment-là, les monnaies du monde entier n'ont plus aucun référent métallique. C'est tout récent. Et il se trouve que, pour des raisons que je ne connais pas et qui ne nous sont point racontées, eh bien, la séparation des monnaies et de l'or a lieu en même temps que la création du protocole TCP/IP de transfert des paquets sur les réseaux. Or, dès que le transfert des paquets sur les réseaux existe, existe le Nasdaq, c'est-à-dire la bourse des valeurs technologiques. Il y a un lien entre la finance, la technologie, évidemment la guerre, on est en pleine guerre froide. Ce lien n'est pas explicité par les historiens de l'Internet. On donne des tas de raisons, mais on ne parle pas de la finance. Au demeurant, du point de vue de l'histoire des signes, la monnaie et les nombres cessent d'avoir un référent métallique. C'est tout récent, 36 ans. Bon, c'est peut-être pas tout récent pour vous, mais pour moi qui travaille sur 5000 ans, c'est vraiment rien. Bon, d'accord, mon point de vue est spécial. Ça n'est pas néanmoins, c'est une histoire moderne et contemporaine quand même. Je vois que monsieur hoche la tête en me disant que tout 36 ans, c'est rien. Non, c'est quand même assez récent. Vous êtes jeune encore, vous verrez, 36 ans, c'est pas très long. Enfin, donc, retenons que l'or s'est retiré des pratiques sociales, de la matérialisation des nombres et de la fixation monétaire. Et que depuis des millénaires, c'est l'or et l'argent qui fondaient les valeurs monétaires. Depuis des millénaires, oui, 2500 ans, pour la monnaie frappée. Donc parmi toutes les transformations qu'il y a, que nous connaissons, eh bien, il y a une transformation monétaire. Les monnaies deviennent complètement indépendantes et ne sont plus que des signes écrits. Matériellement, mais évidemment, si vous dépensez 15 000 euros et que vous n'en avez que 2 000, ça demeure pas bien et économiquement non défendable. Ça continue à avoir évidemment une réalité sociale et économique. Mais ça, les monnaies n'ont plus de corps matériel métallique. D'accord ? Alors, donc, il y a une, parmi l'ensemble des transformations que nous connaissons, il y a la monnaie avec les langues, l'écriture des nombres, le traitement des images, le traitement du son, etc. Cet ensemble a une, c'est-à-dire l'écrire par ordinateur, quand nous écrivons la langue, quand nous écrivons les nombres, quand nous traitons un texte, quand nous traitons des images, quand nous traitons du son, et tout ce type d'activité avec une machine, nous mettons en œuvre sans arrêt des questions logiques. Et ET, c'est-à-dire la coordination, ou OU, sans accent, hein, ou bien, non, la négation, et puis le raisonnement logique, si, alors, si, non, alors. Sans cesse, nous manipulons la négation et la condition, beaucoup plus fréquemment avec l'environnement informatique que dans la langue courante et les situations sociales courantes. Un mode de pensée s'incarne dans l'informatique plus profondément duel que tout ce dont nous avons l'habitude. Sans cesse, nous répondons à une question en oui-non. Si vous sélectionnez un lien, si vous sélectionnez un caractère, et si vous en transformez la couleur, ou si vous en transformez la taille, vous répondez sans arrêt à des questions oui-non. Ou bien à une question, si ceci doit être fait comme ça, alors telle et telle conséquence en suivra. Donc au plan le plus plat et le plus immédiat, l'informatique transforme notre mode de penser l'écriture. Parce que, auparavant, nous ne nous posions pas la question, est-ce que cette forme-là, oui ou non, va être écrite de telle ou telle façon? Non. Toutes ces opérations étaient faites, mais sans être réduites à des questions en oui-non. Sans être réduites à des questions à laquelle la réponse est forcément binaire. Donc, on s'aperçoit que si on prend au sérieux les transformations de l'écriture, eh bien, nous avons connu des transformations dans notre mode de pensée, dans notre mode de travail, qui sont assez immenses. Elles sont encore plus grandes si l'on considère l'anthroposphère, c'est-à-dire la sphère humaine, disons, que déploie le web ou la toile, c'est-à-dire le monde cybernétique. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que du virtuel, qu'est-ce que... Bon, ce ne sont pas des détails, mais il faudrait un peu plus de temps que nous n'en avons ce soir. Mais vous savez tous que un internaute peut passer d'un site à l'autre en cliquant sur un lien. Tout à l'heure, quand Capucine me disait, je vous enverrai la cassette et puis vous cliquerez sur le lien et puis vous engrangerez dans votre ordinateur ce que monsieur est en train de filmer en regardant son écran. Bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un site? Ce mot étrange, quand vous dites l'université Victor Ségalen au site de la victoire. Au fond, le mot de site est revenu d'usage très courant en même temps. Pratiquement en même temps, dans les années, deuxième partie des années 90, que l'usage informatique de sites. On ne parlait pas tellement de sites. Quand on disait, par exemple, le CNRS a plusieurs sites, l'INALCO, les langues ont plusieurs sites, on ne disait pas ça. On disait, bon, on va à Nières. Non, on ne disait pas site. Le mot est revenu avec une pratique graphique nouvelle. Et un sens nouveau. Qu'est-ce qu'un site? C'est un texte complexe, avec de la musique si vous voulez, des images si vous voulez, mais c'est un texte qui est dans une machine, ou dans plusieurs machines, et qui a une adresse, comme une adresse postale, et vous pouvez envoyer grosso modo votre machine à cet endroit, récupérer le texte et le faire venir dans votre machine. Donc c'est un texte avec une adresse URL, Uniform Resource Locator, qui se termine par point quelque chose, comme vous savez, .fr, .org, .net, etc. Donc, l'univers cybernétique, c'est un univers de textes traités par les machines, qui existent dans les machines et n'existent pas ailleurs du tout. Pas du tout. Les enfants ont très souvent l'impression que l'univers cybernétique, il faut y aller. D'accord ? Pas le cas. On va nulle part. Ce sont des textes complexes dans des machines. Et en manipulant votre machine, vous rentrez en contact, entre guillemets, avec le texte dans une autre machine. Mais cet univers-là n'est pas géographique, n'existe pas. Ça n'est pas une bulle. Ça n'est pas un globe supplémentaire autour du globe de la planète. Or, quand j'interroge des enfants ou même mes étudiants, ils ont l'impression que, en effet, c'est un globe autour du globe, en quelque sorte. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, c'est tout à fait faux comme imaginaire. C'est tout à fait inexact. N'est-ce pas? C'est dans les machines. Et les machines sont capables d'être connectées les unes aux autres. Donc, d'une certaine façon, l'écriture a conquis une place absolument considérable. Absolument considérable. Qu'est-ce que c'est que la toile ou le web? On le compare souvent, on la compare souvent à une médiathèque de documentation totale. Bon, mais ça ne suffit pas, évidemment, parce qu'il y a tout aussi bien un centre commercial total. Et puis, il y a des choses qui ne sont ni du centre commercial, ni de la médiathèque, en quelque sorte, qui sont ces choses extraordinaires que sont les blogs, où chacun raconte sa vie en public et autorise le visiteur du blog à écrire ce qu'il en pense. Je ne sais pas, imaginez que tous les Bordelais se mettent chacun à faire des articles sur leurs amours et l'état de leur foi, par exemple, et qu'ils demandent à leurs proches d'écrire à leur tour une feuille qu'on distribuera. C'est inimaginable avec un support papier. Ce n'est imaginable qu'avec l'écriture informatique, un support qu'on appelle immatériel, qui ne l'est pas. Donc, la toile existe absolument sans contrôle, et est imaginé comme une mémoire externe flottante qui nous entoure, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais ce qui est important, c'est la métaphore de la mémoire. Pourquoi c'est important? C'est parce que, dès le départ, l'écriture informatique a été pensée comme, ou plus exactement, la machine, l'ordinateur, a été pensé comme un cerveau électronique. Dès Alan Turing, qui a écrit son premier article en 36-38, Computable Numbers, et ensuite Max von Neumann, ces grands auteurs, ces grands savants et grands chercheurs, font une relation de base, fondatrice, entre le cerveau, organe humain, et l'ordinateur, cerveau électronique. Ça vous paraît plat? On appelait les ordinateurs cerveaux électroniques dans les années 50-60. Et en chinois, où le mot a été traduit, computer a été traduit, eh bien, ça se dit, je ne sais pas comment, c'est un de mes étudiants qui me l'a appris, ça se dit cerveau électrique. Ordinateur, computer, parce qu'il n'y a que les Français qui disent ordinateur quand même, tout le monde dit computer. Et computer se dit cerveau électrique. Donc, il s'agit de l'externalisation de l'organe cérébral, de l'organe de pensée, de l'organe de mémoire, hein, et sa projection dans un artefact qui est une machine à signes. Or, cette affaire n'est pas une affaire récente. Nous n'avons pas le temps de faire toute l'histoire de l'invention de l'écriture des langues, ou de, on va enlever ça, hein, ou de l'invention de l'écriture monétaire arithmétique, à moins que cela vous amuse particulièrement. Mais je peux vous dire, on va regarder ça 5 minutes. Alors, vous voyez par exemple, l'artefact de base de l'invention de l'écriture des langues, dans la région qui me concerne, c'est-à-dire le Proche et le Moyen-Orient, ici c'est le Moyen-Orient, l'Iran et l'Irak, hein, puisque l'histoire de l'écriture telle que j'ai essayé de la penser n'est pas une histoire planétaire, n'est pas une histoire universelle. J'ai traité de l'évolution de l'écriture et de ses transformations depuis la fin du 4e millénaire avant notre ère, au Proche et au Moyen-Orient, en Iran et en Irak actuel. Évidemment, ça n'a pas de sens dans l'Antiquité. Hein. Et puis ensuite, les transferts graphiques vers la Méditerranée orientale, de la Méditerranée orientale la Grèce, de la Grèce à l'Europe, de l'Europe à l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et ses extensions coloniales. Ceci concernant l'écriture des langues, entre la fin du 4e millénaire où on écrit essentiellement avec des signes qui valent pour un mot, qu'on les appelle logogramme, pictogramme, idéogramme, peu importe, ce sont des signes globaux pour un mot, jusqu'à l'alphabet complet qui note consonnes et voyelles inventé par les Grecs, grosso modo au 8e siècle avant notre ère, peut-être un peu avant. Hein. Par la suite, je me suis intéressée à la monnaie frappée, parce que la monnaie frappée s'est fait le vecteur d'une matérialisation et d'une écriture des nombres et de leurs rapports. Il y a un lien fondamental entre la monnaie frappée et la géométrie dans le monde grec ancien, au 6e, 5e siècle, avant notre ère. L'une et l'autre sont des inventions ioniennes de la même période, en Ionie, c'est-à-dire dans la façade méditerranéenne de la Turquie occidentale. Elles apparaissent au même moment, elles sont sans doute créés ou pensés par des gens qui sont des mathématiciens dont on ne sait rien et qui sont à l'œuvre dans l'affaire monétaire. Et cette opération lie définitivement dans l'histoire occidentale la mathématique à l'économie. Les mathématiciens seront souvent économistes. C'est produit des milliers de fois. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que avant que dans cette fin du XXe siècle, quelques grands savants hors pair inventent l'informatique, en pensant que l'ordinateur est un cerveau électrique, c'est-à-dire une représentation, une externalisation de l'organe de pensée humain, eh bien, 5000 ans avant, quand en Irak et en Iran, on a inventé un artefact qui est devenu la machine à signes pour écrire les langues, quand, au 7e siècle avant notre ère, en Ionie, on a inventé un artefact qui est devenu la machine à signes pour la monnaie frappée et l'écriture arithmo-géométrique, eh bien, on a fait le même raisonnement. Cette machine à signes, cet artefact fondateur d'un mode d'écrire, que ce soit la langue ou les nombres et leurs rapports, cet artefact représente un organe du corps humain. Dans l'invention de l'écriture des langues, vous voyez ici, en numéro 3, ce qu'on appelle une bulle enveloppe. Une bulle enveloppe, c'est une boule d'argile crue dans laquelle on a tourné le pouce pour faire un creux. Dans ce creux, on a glissé des petits objets comme ça qui sont des calculis, c'est-à-dire des matérialisations de quantités ou de nombres pour une chose. On a refermé la boule, on a écrasé dessus un seau cylindre qui a permis d'avoir une image en relief. Vous la voyez l'image là, hein? Il s'agit d'une très jolie image. C'est un atelier de poterie du 4e millénaire avant notre ère. Hein? Vous voyez bien un ouvrier qui est en train de travailler avec un vase, d'autres qui sont en train de travailler avec de l'argile qui est encore sous forme de plaque, et puis le donneur de conseils de la tradition orientale. Vous le voyez, il est debout, il est plus grand, il surveille le travail et en même temps, il met en forme la vie sociale dans le travail. Il la raconte, il la met dans des mots avec sa morale et ses institutions. Cette bulle enveloppe est en fait une matérialisation externe, une externalisation de l'organe de la parole qu'est la bouche, bien évidemment. Elle est ronde, elle est creuse, elle contient les choses qui vont être dites et qui font du bruit. Et puis, l'étape suivante, c'est que ces choses qui sont à l'intérieur, elles apparaissent sur la surface. Les calculis enfermés à l'intérieur sont représentés par des encoches, des marques sur la surface. Vous en voyez là, tandis que l'étape suivante, c'est la tablette, telle que la Mésopotamie en pratiquera pendant des millénaires, l'Iran aussi, avec le déploiement du sceau. Ici, je l'ai reproduit, c'est un atelier de tissage. Vous voyez le métier à tisser horizontal, le donneur de conseils et les ouvriers que l'on voit soit d'en haut, soit couchés de côté. Et ici, eh bien, ces sales petites marques, ce sont des chiffres, c'est-à-dire des représentations de nombres. Mais entre les premiers calculis, qui sont du 7e millénaire avant notre ère, et les tablettes, qui sont d'environ 3000 avant notre ère, il y a eu, pendant à peine 100 ans, un artefact qu'on appelle la bulle enveloppe et qui matérialise une bouche. Donc, on pourrait passer un peu plus de temps dans la mythologie, mais peu importe. Donc, l'artefact qui devient la machine à signes, eh bien, il externalise l'organe sémiologique de ce qui va être écrit, c'est-à-dire la langue. On peut faire la même analyse, vous avez suivi à peu près, ça va? Je conçois que ce soit un peu curieux. Ceci dit, c'est absolument le même raisonnement que pour inventer un ordinateur. Nous sommes dans la lignée sémiologique qui va de l'Iran et de l'Irak à la Méditerranée, à nous. Les anciens sont parmi nous. On est toujours le moderne de quelqu'un et l'ancien de quelqu'un d'autre. Le mode de pensée qui revient à pratiquer une invention graphique avec un artefact externalisant un organe, eh bien, il a été réalisé par des savants et des techniciens à la fin du 4e millénaire avant notre ère. Encore une fois, avec les artefacts pour inventer la monnaie frappée au 8e siècle encore avant notre ère, et encore une fois au 20e siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, par des mathématiciens hors pair, qui furent Alan Turing et Max von Neumann. Il y a toujours eu des savants hors pair dans ces inventions-là, sans doute toujours des mathématiciens, parce que dans la tradition occidentale, c'est l'écriture des nombres qui mène la danse des inventions graphiques. Mais ce que je voudrais vous faire passer, c'est que nous ne sommes pas si différents, en même temps que nous le sommes infiniment, des modes de pensée et de ceux qui ont contribué à formuler notre univers de signes, notre univers sémiologique. Nous sommes liés à eux et liés par un imaginaire extrêmement fort. L'idée que pour inventer une écriture, on externalise l'organe qui est porteur de l'univers sémiologique que l'on va capter dans les signes. On peut faire la même analyse avec l'invention de la monnaie frappée, mais je vais juste vous le donner là. Les premiers, c'est une feuille que je donne à mes étudiants souvent. L'invention de l'écriture monétaire arithmétique se fait vers la fin du 7e siècle avant notre ère, probablement dans la région d'Éphèse, dans le grand sanctuaire d'Artémis, proche du grand sanctuaire d'Artémis, près d'Éphèse, qui s'appelait alors Choressos. Et elle se fait avec un artefact qui, au départ, représente un globule d'argent. Un globule, c'est une petite boule d'argent. Puis ensuite, il y a une petite boule que nous appelons globule, que Hérodote appelle Kemata Argurea Cucloterea, c'est-à-dire coulée d'argent de forme arrondie, ou coulée d'électrum de forme arrondie. Vous savez tous ce que c'est l'électrum ou vous ne le savez pas? Électrum, c'est un alliage natif d'or et d'argent. Tout ça se passe dans les régions, du moins l'usage de l'électrum, dans les régions proches de la capitale de l'Empire lydien, dont le dernier roi s'appela Crésus. Et il était riche pourquoi? C'est parce que un des fleuves sur lesquels, qui coulait sur son territoire, la Lydie, s'appelait le Pactole. Et que le Pactole charriait des pépites d'électrum. Et oui, riche comme Crésus, c'est le Pactole. Nous viennent d'Hérodote, essentiellement, mais en fait, de l'invention de la monnaie frappée. C'est directement lié au métal, à l'environnement monétaire et à la création monétaire de la fin du 7e siècle avant notre ère. Nous en parlons encore. Votre génération, les jeunes, ne disent plus « il est riche comme Crésus et c'est le Pactole ». J'ai essayé d'écouter chez mes étudiants. C'est en train de disparaître. Sans doute parce que la monnaie se détache du métal. Enfin, toujours est-il que on pourrait faire une analyse à ce peu semblable. Le globule d'électrum, en fait, externalise un œil. Or, dans la vie économique, pour estimer un bien, vous êtes quasiment dans la situation de le regarder. Évidemment, pas quand vous êtes un trader dans une grande banque. Nous sommes pas à la fin, au début du 21e siècle ou du 3e millénaire de notre ère, mais au 1er millénaire avant notre ère, où le commerce, fût-ce à moyenne ou à grande échelle, se fait encore dans la relation personnelle. Donc, pour acheter un bien, pour estimer un bien, pour estimer des grandeurs, l'outil organique, c'est la vision. C'est l'œil. La monnaie frappée a comme artefact premier un globule, c'est-à-dire une petite boule, pas très grande, grande comme votre ongle, plus petite même, d'argent, pesé, puis d'électrum pesé, qui externalise l'outil organique de l'estimation des grandeurs. Par la suite, ces monnaies, disons, ces premières monnaies, je ne vais pas prendre cette image-là, porteront des figures arithmogéométriques. C'est lisible là, oui. Vous voyez, elles portent des coins carrés dans lesquels sont dessinés des segments de droite qui découpent le carré avec des médianes, des diagonales et des médianes, 6 segments, ou bien l'écriture du gnomon, ou bien la duplication du carré, comme le problème du Ménon de Platon. Ce qui est important de savoir, c'est que sur les monnaies anciennes, du 5e, 4e siècle avant notre ère, se trouvent des problèmes majeurs de la mathématique grecque. Et qui sont liés à la question des irrationnels, très exactement la question du nombre racine, que nous appelons racine de 2. Ça vous dit quelque chose, si vous prenez un triangle équilatéral rectangle droit, et de côté 1, quelle est la dimension de son hypoténuse? Et quelle est la relation de l'hypoténuse avec les côtés du triangle? Eh bien, justement, c'est tout le problème. C'est tout le problème pour les mathématiciens anciens. Racine de 2 est un nombre irrationnel. Ce qui a posé des questions philosophiques majeures et aux mathématiciens et à Platon. Donc, revenons à cette idée, c'est que dans ce fleuve sémiologique qui prend sa racine au Moyen-Orient, en Iran et en Irak, qui va vers la Méditerranée et qui se renouvelle avec l'écriture monétaire arithmétique en Ionie et en Grèce ancienne, et qui est transmis à l'Europe, puis à l'Europe et ses extensions coloniales, eh bien, ce fleuve sémiologique porte un imaginaire commun, c'est qu'au moment d'une grande invention graphique, on externalise l'organe responsable de l'écriture que l'on va noter. Et pour nous, l'ordinateur, c'est l'organe cérébral, et en effet, l'ordinateur peut écrire quasiment tout ce que peut traiter le cerveau. Donc, je voulais simplement dire que nous ne sommes pas plus sauvages, pas plus avancés, ni moins, mais nous nous inscrivons dans une tradition imaginale et technique qui remonte assez loin. Maintenant, faut-il que je vous parle de demain? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on peut discuter sans fin du monde de l'image, du blog, du contrôle du web, etc., de l'existence ou non des e-books, de la dispersion monétaire, etc. La vraie question qui se pose aux sociétés modernes et traversée par le monde cybernétique et la télévision, etc., c'est la question de que vaut la parole humaine. C'est la vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, avant l'informatique et après? C'est un extraordinaire aplatissement des usages de parole. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous nous adressons, ou les enfants s'adressent à leurs professeurs, ou à leurs tantes, ou à leurs cousins, ou à leurs copains, sur le même ton et avec les mêmes phrases. Ce qui est assez curieux, dans une langue qui permet, comme toutes les langues, une variation gigantesque, inouïe, infinie, et qui était enseignée, transmise avec les codes de la variation. Ceci, pour des raisons que je ne comprends pas bien, ou pour des raisons assez complexes, cette variation a disparu, alors que toute langue est justement porteuse de cette possibilité de formulation infinie. Et je crois que la grande question dans le proche avenir, demain, c'est d'abord, avant l'écriture, que devient notre parole? Comment nous allons parler? Est-ce que nous allons continuer à nous exprimer de façon plate et désymbolisée? Ou est-ce que nous allons revenir à une variation de parole, à une symbolisation de la parole, à une espèce de redéploiement des possibilités? Et les possibilités, c'est du sens, c'est du plaisir, quand même, avant toute chose, c'est du plaisir. Je vous remercie.